La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault, Grégoire Difior et l'équipe technique ce soir au Grand Palais est composée de Christian Lahondès, Alexandre James, Rémi Gouriot au studio 158 de la Maison de la Radio. C'est Emmanuel Mordincan qui est aux manettes. Réalisation Daniel Finot et autour de moi ce soir Naël Pijat, Corinne Rondeau et Frédéric Bonnet pour une émission en direct, bien sûr, et en public cette fois du Grand Palais. À l'occasion de l'ouverture de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. Je me doute que ça s'entend. À notre affiche, Braguino, la communauté inavouable, impossible, les communautés inavouables, c'est autre chose. On en parlera tout à l'heure, c'est l'exposition de Clément Cogitor qui est en ce moment présentée au bal. From Chaos to Art, l'exposition de Tania Moreau à la galerie Rabouin-Moussion. Et puis deux expositions consacrées à Harmonie Corinne, au centre Pompidou et puis à la galerie Agnès, mais galerie du jour. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris. Ça, c'est, on était mercredi dernier. Cette exposition à découvrir jusqu'au 5 mars à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Nous ouvrons donc cette dispute avec l'exposition que le bal consacre à Clément Cogitor sous le titre Braguino ou la communauté impossible. Ça, c'est le bon titre. Il a également réalisé un film, Braguino, qui va sortir en salle le 1er novembre.
По лесу, когда идешь, вот именно. Это видишь эту красоту. И даже не верят. Идешь, вроде так хорошо, красиво. Но это даже может исчезнуть. Даже не верят, этого может не быть.
Sacha Braguin, c'est le nom de ce monsieur, issu d'une communauté de vieux croyants, qui a décidé de s'installer avec sa famille dans la taïga sibérienne, à 700 km de toute présence humaine, il y a une trentaine d'années. C'est une idée que nous avons assez régulièrement, Corinne Rondeau, vous et moi, de partir dans la taïga sibérienne. Lui l'a fait. Il souhaitait y trouver la paix, il souhaitait vivre en autarcie, il souhaitait construire un modèle de vie autosuffisant. Clément Cogitor, qui est le premier lauréat du prix Le Bal de la jeune création avec l'ADAGP, c'est-à-dire la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Clément Cogitor donc, s'est rendu sur place pour voir ce qu'il était advenu de cette communauté. Alors, commençons quand même par l'exposition, même je ne sais pas si vous avez vu les uns et les autres le film qui va sortir. Alors, j'ai deux oui, un non. On verra pour tout à l'heure pour en parler. On va voir quelle forme plastique prend ce voyage Clément Cogitor. Anaëlle Pijat, pour commencer.
Alors, effectivement, c'est important, c'est de préciser qu'on regarde cette exposition, mais qu'en fait, Braguino, c'est vraiment un projet qui est issu de deux voyages de Clément Cogitor en 2012 et en 2016 en Sibérie, et un projet qui se compose de différentes variations autour du même sujet et qui ont pris la forme de l'exposition, du film dont vous avez parlé Arnaud, d'un livre et aussi d'une création sonore pour France Culture. À mon avis, la forme...
J'avais oublié celle-là. Heureusement que vous êtes là, Annelle.
À mon avis, la forme la plus aboutie de ces variations, qui sont un peu des variations comme un peintre autour de son sujet, qui chaque fois comporte des nuances assez subtiles, la version la plus aboutie, c'est le film, à mes yeux. Mais chacune de ces variations a en commun la forme d'un récit fragmenté. L'histoire donc, qui se concentre sur le personnage de Sacha Braguin et de sa famille. Sacha Braguin qui a quitté la communauté des vieux croyants pour partir donc, dans la taïga à construire un village complètement isolé. et village où s'est installée la sœur de sa femme, qui est arrivée avec sa famille aussi. Et en fait, les deux familles s'affrontent dans une guerre larvée depuis des années et au fond courent à leur perte lentement à la rencontre du monde d'aujourd'hui, du monde contemporain. Alors, au bal, le récit est fragmenté sous la forme de différents écrans qui sont répartis dans l'espace. Ce sont des petites boucles vidéo qui se succèdent et on fait le tour de l'espace et on suit le récit, on découvre le récit. Il y a essentiellement trois éléments dans la narration. Il y a une chasse à l'ours, il y a une scène sur une île où des enfants jouent, les enfants des deux familles qui jouent séparément. C'est une sorte de petit théâtre des hommes que l'on regarde de loin avec une certaine violence. Et le troisième élément dans le scénario de cette exposition, qui est aussi le scénario du film d'une certaine manière, c'est l'arrivée d'un hélicoptère avec des braconniers qui vont conduire ces deux familles à leur perte. Le récit est donc exprimé avec une très grande retenue. Finalement, Clément Cogitor, le cinéaste, a l'air d'être aux aguets, à l'affût des regards, à l'affût des gestes. Il y a très peu de paroles et on voit surtout ces images absolument magnifiques, ces lumières qu'on lui connaît, que l'on avait vues déjà dans le film Bieloutine, qui montrait deux collectionneurs russes dans un appartement à Moscou éclairé à la bougie. Et il y a pour moi une extrême beauté dans la blondeur de ses enfants, dans ces paysages de l'île, dans la forêt, dans les animaux qui sont aussi des membres de la communauté.
Corinne Rondeau, pour un premier regard sur cette exposition de Clément Cogitor au bal.
Écoutez, à partir du moment... lorsqu'on arrive, on est qu'est-ce qui se passe? On est protégé.
Je sais pas, vous faites déjà rire, Frédéric Bonnet.
Oui, mais
Bonnet.
C'est parce qu'on s'entend, fort peu, en fait.
On s'entend pas très bien, oui. Ouais,
l'exposition, moi, je suis pas très fan de l'exposition. Même si je la trouve parfaitement réussie, c'est-à-dire on arrive dans un espace... très en pénombre, on a un petit synopsis qui nous raconte ce que c'est, avec beaucoup moins de détails qu'Anaël nous en a proposé d'ailleurs, parce que c'est aussi la question de la suspension de l'exposition. Donc on est dans un environnement qui n'est pas très éclairé, qui rappelle le crépuscule de la taïga, puisqu'il ne fait pas très jour en Sibérie. Et donc évidemment, la lumière sibérienne, elle est déjà un récit en soi. Et c'est un environnement pour l'exposition. Donc au niveau supérieur, on a deux grandes cimaises, enfin des modules, on va dire, qui sont recto verso. Sur la première avec laquelle on est accueilli, c'est un hélicoptère dans le ciel. Et puis de l'autre côté, il y a une photographie d'un enfant, je crois, près d'une fenêtre. Mais les photographies, vous ne pouvez pas les photographier, par exemple. Donc on est tout le temps en train de circuler face à ces modules où on est pris à la fois dans une histoire en mouvement et aussi dans une image arrêtée, suspendue dans le temps, crépusculaire. Et puis par ailleurs, chaque fois qu'il y a un module, il y a un chapitrage qui commence par une phrase qui est reprise du film. Lui-même, parce que c'est prononcé. Donc le premier, c'est « J'ai fait ses rêves ». Le second, c'est « Je ne me rappelle plus exactement ». Mais
vous
c'est
avez trouvé
un
notes.
Homme, c'est... non, ça, le troisième, ou le quatrième, c'était une prédiction. Voilà. J'écris très mal, mais voilà. Et donc ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a une volonté chez Cogitore de vouloir faire du chapitrage. Comment avec des images, on fait du récit en voulant faire du découpage. Ce n'est pas du montage. D'ailleurs, moi, je suis très... je suis très mitigée sur le montage de son film, par ailleurs. Et si vous voulez, indépendamment de la qualité, de l'aspect formel, très réussi, cette manière de faire chaque fois des formes elliptiques, alors que son film est lui-même elliptique, donc il rajoute dans l'exposition des dimensions elliptiques. Ou d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que dans le film, il y a des femmes, et dans l'installation, enfin, il ne m'a pas semblé en voir beaucoup. Je ne crois pas, il n'y a que des enfants, en fait. Il y a des petites filles, mais je ne crois pas. Donc, si vous voulez, il y a cette manière de toujours vouloir nous mettre à l'épreuve du récit. Donc, ça peut marcher. Moi, je trouve que c'est trop propre. Alors, ça ne veut rien dire de dire que c'est trop propre. Mais je trouve qu'il y a une très grande maîtrise et à la fois un très grand contrôle chez Cogitore que je trouve tout le temps dans ses œuvres. Et j'ai toujours une sorte de soupçon. Alors, ce n'est pas négatif, hein, mais je me dis à quel moment le travail de Cogitore va venir me prendre, vraiment, et me mettre dans son travail, parce que je m'y sens toujours. Je vois où est-ce qu'il coupe, je vois là où il fait monter l'acmé, la dimension zénitale de son projet. Cette volonté, souvent, notamment dans son film « Ni le ciel ni la terre », où il y a un épilogue, on a dans l'exposition aussi un épilogue, et qui est assez beau, mais en même temps, c'est encore quelque chose de rajouter du sens. Alors comment... Moi, je n'arrive pas à trouver l'équilibre entre une œuvre qui propose de l'ellipse et du suspens, et en même temps qui veut rajouter un épilogue pour faire sens. Alors moi, c'est le truc trop bien qui me gêne toujours un peu, parce que j'aimerais qu'à un moment donné, il se déchaîne, quoi, voilà.
Alors, Frédéric Bonnet, pour un troisième regard, cette exposition qu'on voit au bal en ce moment.
Oui, alors moi, je n'ai pas vu le film, donc déjà, on va se contenter de...
Pour l'instant, on parle de l'exposition.
On va se contenter de l'exposition. Oui, oui. Non, mais en plus, Anaëlle nous a parlé de la fin. Alors, c'est fâcheux, parce que ça ne me donne pas forcément envie d'y aller. Puisque l'exposition, et c'est en ça que y a des choses intéressantes dans cette exposition, c'est justement la manière de découper la matière film et une manière de générer une attente sans non plus tout révéler de ce qui se passe. Et j'ai bien aimé cette mise en espace. C'est une vraie question, la mise en espace d'un objet film. C'est pas évident. Je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré dans la manière justement dont il introduit des éléments de récit. Il introduit une narration qui est découpée et qui quelque part aussi conduit à se perdre un petit peu. Par contre, j'avoue que la forme elle-même prise par l'exposition m'a laissé pour le moins perplexe, parce que je l'ai trouvée, on va dire, au moins grandiloquente. Ce qui est assez fâcheux, parce qu'on aurait pu faire ça beaucoup plus simplement. C'est pas parce qu'on évoque la taïga qu'on est obligé de se retrouver complètement dans le noir, avec, surtout pour expliquer aux auditeurs, chacune des projections prend place dans un caisson en bois, qui prennent grosso modo des formes d'un morceau de maison, on va dire, devant chaque écran. Il y a une photographie qui est rétroéclairée, donc qui a été prise là-bas aussi, évidemment, sur le site pendant le tournage. Et on a rajouté un filtre noir, histoire de les obscurcir. Alors, tout ça, ça donne une atmosphère un petit peu fantomatique, qui, je crois, dessert le film, parce qu'elle elle crée un basculement, à la fois, je trouve, pas réussi le design de ces encadrements, des écrans, et en plus je trouve que la photo est pas foncièrement une bonne idée, même si je comprends qu'il ait dû se dire qu'il fallait occuper l'espace central, puisque les projections sont autour de l'espace, mais ça rajoute de la confusion à quelque chose qui n'en demandait pas et n'en nécessitait pas.
Mais pour réagir sur ce que disait tout à l'heure Corinne Rondeau, alors je dis ça en connaissance de cause, puisque il se trouve que j'ai donné quelques conseils dans cette école, fut un temps, mais c'est très frénois, le travail de Clément Cogétor. Et alors, très frénois, c'est pas forcément une insulte, hein, loin s'en faut, mais ça veut dire, quand je l'emploie ici à propos du film et de l'exposition, un travail très bien fait, très professionnel, très bien cadré, très bien monté, mais dans une forme d'académisme d'aujourd'hui qui, moi, me coupe un peu des émotions qu'aurait pu me donner cette histoire, qui est quand même une histoire extraordinaire. Enfin, cette communauté, non pas inavouable, mais tout à fait impossible. J'imagine ce que d'autres cinéastes comme Gianfranco Rosi auraient pu faire dans un lieu pareil. Et Cogétor en fait quand même quelque chose de toujours beau. Enfin, il y a, j'ai évidemment rien contre le beau, bien au contraire, mais je trouve que du coup il dévitalise un petit peu le propos, il en atténue les arêtes, les aspérités, alors qu'on voit bien, si on voit le film jusqu'au bout en effet, que c'est une confrontation extrêmement violente, c'est les Atrides, enfin pour aller très très vite, c'est presque ça, enfin ça pourrait presque finir dans un, ou ça finira peut-être très très mal après le film. Annaëlle Pigeat.
C'est vrai que ce côté très sobre comme ça et très, très retenu. En fait, moi, je le vois plutôt comme une forme de retenue, ce style de Clément Cogétor. Et au lieu d'être simple, je le trouve au contraire toujours très ambigu. Et très ambigu.
Oui, on ne s'entend pas toujours forcément.
Il y a beaucoup d'ambiguïté dans son travail. Et c'est là que je trouve, effectivement, c'est un travail qui n'est pas bavard, c'est un travail qui n'est pas expansif.
Mais je vois pas l'ambiguïté, moi, c'est ça, en fait.
Par exemple, dans le personnage de Sacha Bragin, qui, au premier regard, ressemble à une sorte de héros, comme ça, qui a quitté son village, qui est le patriarche, qui est la figure, comme ça, qui même a un peu des allures de saint visuellement, enfin, je veux dire, qui ressemble comme ça, vraiment à une figure de patriarche, qui, au fond, dont on se rend compte qu'en fait, il laisse ses enfants quasiment à l'état sauvage.
Ouais.
Qu'il ne les envoie pas à l'école, que les enfants deviennent quasiment muets.
Son autarcie.
Et qui finalement apparaît comme un personnage potentiellement assez égoïste et assez noir, peut-être même. Et en fait, je trouve que la richesse de ce travail réside dans ces ambiguïtés-là, réside aussi dans le fait, par exemple, que la fin, sans divulgâcher la fin du film, puisque telle est l'expression
c'est le mot juste.
Requise, il y a deux fins, en fait, qui ne sont pas les mêmes dans l'exposition et dans le film, qui partent même dans des directions tout à fait différentes. Et en fait, je trouve que c'est cet état d'instabilité et de déséquilibre qui est intéressant dans ce travail-là.
Frédéric Bonnet ?
Oui, mais justement, moi, le déséquilibre, je le vois pas. Et quand vous parliez d'aspérité, c'est exactement ce qui manque. Et m'avait ôté le mot de la bouche parce que je trouve
pour
que...
Pour une fois,
bah, oui.
Je suis bien content.
On se fait à tout. Mais en effet, moi, je trouve que cette présentation manque singulièrement d'aspérité. Et en effet, on retrouve des recettes frénois. Et alors, je dis pas qu'il faille absolument être rock'n'roll en tout et chercher à être destroy ou trash. Mais là, en l'occurrence, surtout s'agissant de ce sujet-là, où on parle quand même de gens qui vivent en autarcie, en plein milieu de la, j'allais dire la pampa, pas la pampa, mais la taïga.
Bon,
et donc dans un territoire sauvage où justement l'histoire est faite d'aspérité et le territoire lui-même est fait d'aspérité. Et dans la présentation qui en est faite, on n'a plus du tout d'aspérité et tout est absolument gommé.
Corinne Rondeau, pour finir, peut-être sur Clément Cogitor, Cogitore, Cogitor, avait même dit Grégoire Di Fiore un soir.
Oui, moi je reste sur... pour ne pas revenir non plus et revenir sur l'expo ni le film, je trouve qu'il y a quelque chose dans le travail de Cogitore qui a le souci de... Il va toujours chercher quelqu'un ailleurs. Que ce soit, vous avez parlé des collectionneurs moscovites, mytho, vrai, ok. Il va dans la taïga. Ensuite, il a fait des petites formes, notamment des petits courts-métrages où on parle de ce Lord commandant de sous-marin, où on va raconter une histoire incroyable aussi. Il a besoin d'un horizon qui est déjà un récit. Mmh. Et c'est vrai que cette dimension atmosphérique, crépusculaire de l'exposition est déjà un récit. Et il a toujours cette manière de vouloir... Toujours, de vouloir nous faire venir dans un récit. Mais où est l'image ? Comment on vit dans l'image ? Moi, ce qui me manque, c'est qu'il faudrait arrêter de penser le récit pour penser quand même aussi les images, quand le scénario, il doit aussi être porté par des images. Et ce qui me manque, alors je vois, si vous voulez, le film pour moi est très faible, parce que je trouve qu'il y a le montage, il a cette manière de couper à des moments où il devrait laisser le film... passer pour créer cette tension. On a plein de plans de ces enfants sur l'île, par exemple, qu'on a aussi dans l'exposition. Hein, j'enlève rien, mais c'est un peu plus court, c'est tout. Et en fait, on se dit, mais pourquoi il ne maintient pas cette espèce de frayeur ? Pourquoi il ne nous la fait pas grandir en nous ? Et en fait, en faisant du chapitrage, à la fois dans l'exposition ou dans le film, il y a cette façon de nous enlever quelque chose de cette temporalité, de cette impression qu'il pourrait nous donner. Alors moi, ça... Et la question de l'épilogue est une manière aussi romantique de nous renvoyer une sorte de mondialisation. Parce que franchement, aller en taïga pour nous parler de la paranoïa liée par l'isolement des individus, j'ai envie de dire, la parano, c'est mondial. La question du territoire et, je dirais, de la frontière, elle est partout dans le monde. Elle est pas... Et elle peut être aussi, évidemment, dès qu'il y a deux individus, il y a du territoire, il y a des pouvoirs et il y a des conflits. Donc j'ai l'impression que cette version romantique est un peu... Enfin bon, écoutez, il fait ce qu'il veut en même temps. Mais le côté parabolique...
Cette dimension-là est dans un tableau d'Albert Hollen, qui est une des seules œuvres que j'ai vues en promenant dans la FIAC, tellement elle était forte, qui s'appelle... qui est sans titre, mais qui présente la liberté et la frontière. Une très belle œuvre. Anaëlle Pigeat ?
Simplement sur la question du récit, effectivement, Clément Cogitore va souvent chercher des récits et c'est, à mon avis, entre autres, beaucoup de choses qui fait de lui vraiment un cinéaste. Sur la question des images, la lumière me semble être vraiment le véhicule de beaucoup de propos de son travail. Et en fait, je voulais aussi répondre à la question des aspérités, parce que finalement, cette exposition, comme ce film, à mes yeux, c'est au contraire un monde d'hier et c'est un monde qui s'efface. Donc c'est effectivement l'inverse de
l'aspérité. Frédéric Bonnet n'est pas d'accord, on va encore débattre.
C'est une image qui se dissout au fur et à mesure que le temps passe.
Quand on est à ce niveau-là de technologie et de finition, on n'est pas dans le monde d'hier.
Quand on est à ce point-là dans la technologie, on n'est pas dans le monde d'hier. Est-ce que vous ne l'aviez pas entendu ?
Il montre un monde qui s'efface au fur et à mesure qu'il le révèle. Il montre un monde qui va disparaître, cette communauté de la taïga.
Bon, on reste sur cette incertitude et cette absence de consensus concernant Bragino ou la communauté impossible. C'est l'exposition actuellement présentée par Clément Cogitor et jusqu'au 23 décembre au BAL. Le film Bragino sortira en salle le 1er novembre et sera même diffusé sur Arte à la fin du mois de novembre. À suivre dans la dispute, Tania Moreau et Harmonie Corinne.
France Culture,
la dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux arts plastiques en direct du Grand Palais à l'occasion de l'ouverture de la FIAC, et c'est d'ailleurs dans une galerie que nous allons à présent chez Rabouin Moussion qui propose From Chaos to Art, une exposition d'œuvres de Tania Moreau. Après sa rétrospective au centre Pompidou-Metz en 2015, voici donc le retour de Tania Moreau, 75 ans cette année, qui après avoir brûlé toutes ses toiles en 1968 en revenant de la documentaire Cassel, s'est consacrée depuis à l'installation, à la sculpture, à l'intervention dans l'espace public, à la photographie, à la vidéo, à la création sonore, à la performance, beaucoup aussi. Que montre-t-elle à la galerie Rabouin-Moussion ? Frédéric Bonnet, pour commencer.
Elle montre essentiellement deux séries de photos et un film qui ont en lien d'être basées sur des aspects du paysage qui sont en fait détachés de leur contingence paysagère elle-même. Ce qui m'intéresse dans le travail de Tania Moreau, c'est que ça n'est jamais un travail directement violent. Et en fait, c'est toujours un travail dans lequel il y a une violence absolument latente et qui parfois peut être véritablement terrible. On se souvient de l'exposition, enfin, en tout cas moi je m'en souviens, qu'elle a faite au Macval il y a 3-4 ans, où c'était juste une seule triple projection du sol au plafond dans cette espèce du Macval, et qui donnait simplement à voir un gros plan sur dans une usine de recyclage où des livres vont au pilon. Et avec un acharnement absolument méthodique de la machine à aller réduire en bouillie le livre, la matière livre et la pensée livre, évidemment. Et évidemment, avec tout ça, on ne pouvait pas ne pas penser non plus à la guerre et à la Shoah, qui est un thème assez récurrent chez Tania Moreau. Et ici, dans les deux séries d'images qu'elle donne à voir, il y en a une notamment qui est exécutée dans des mines, des territoires miniers en Allemagne. Et je trouve ces images assez remarquables parce que si on s'arrête simplement devant l'image sans savoir ce que c'est, on est face à de très très belles photographies parce qu'elle sait faire de la photo. Elle sait construire une image, elle sait cadrer une image, et on est devant une composition presque abstraite de plans, de terre avec donc des coloris différents. Et il y a une dimension, oui, presque picturale et presque abstraite qui moi m'intéresse visuellement. En tout cas, je trouve elle appelle. Et en fait, ces territoires comme toujours chez Tania Mourou, ne sont pas neutres, mais ce sont en fait donc des terrains miniers où donc la machine, encore une fois, vient détruire et vient polluer et vient saccager des territoires. Et donc il y a cette ambiguïté-là qui est toujours planante et toujours pesante chez Tania Mourou, qu'on retrouve aussi dans l'autre série de photos faites en Normandie, celle-là, mais je vais peut-être laisser mes camarades
Allez,
de jeu en parler.
Annaëlle va enchaîner du coup. Peut-être d'abord une description en effet des photos normandes.
Voilà, alors les photos normandes, il s'agit de paysages de mer dans lesquels on voit des sortes de constructions qui affleurent à la surface de l'eau, qui sont en fait les restes de bunkers de la guerre. Donc c'est l'instant d'après la guerre, c'est les ruines, c'est une sorte de paysage de ruines de la modernité qui sont dans des gris, des camaïeux de gris, extrêmement beaux aussi. Il y a une texture de l'image qui est absolument magnifique, comme dans les paysages miniers. Et on sent effectivement aussi cette violence latente qui se cache derrière la très grande douceur de ces paysages. Quand on continue un peu le chemin de l'exposition, on tombe dans une très belle vidéo qui montre un immense animal marin qui émerge là aussi de l'eau, un peu comme les morceaux de bunker qui émergent des paysages dans les photos précédentes. Et cet animal marin est une baleine qui, comme on l'apprend, apprend à nager à ses petits baleineaux. Simplement, en fait, ça se voit pas vraiment. Il y a dans cette vidéo, dont le son est composé par Tania Mourou, puisqu'elle a aussi une pratique musicale extrêmement forte. Elle a fait d'ailleurs deux performances au moment de l'ouverture de l'exposition. Il y a dans cette vidéo quelque chose, un rapport à l'animal et aussi à une conscience de l'écologie qui, comme le disait Frédéric, enfin en tout cas, qui est une sorte de conscience politique qui n'est jamais donneuse de leçons, qui est une sorte de manière d'être qui appelle un discours et qui appelle une force et un propos, un appel à la responsabilité, sans jamais se mettre dans une position de supériorité ou de supériorité.
Non pas une synthèse, mais une autre proposition, celle de Corinne Rondeau, pour cette exposition de Tania Mourou, qui est, je le rappelle, dans la galerie Rabouin-Moussion.
Bah Arnaud, vous avez commencé par dire en 68, elle brûle tout. Et c'est intéressant parce que, en fait, elle commence par de la destruction. Et si on est allé voir Pompidou-Metz, l'exposition, la rétrospective qu'il y avait eu d'elle, c'était quand même une artiste qui nous a donné à voir beaucoup de choses qui sont minimalistes. Enfin, on est passé par des chambres de méditation, un espace où la révolution, c'est des drapeaux enroulés autour de leur mât. Tout ça était dans un cadre, je dirais, très formaliste après cette destruction. Et en même temps, le point d'origine, c'est la destruction. Et en fait, lorsqu'elle a son histoire est aussi liée, on l'a dit, à la Shoah et la question des camps, il y a un film, elle a fait un film qui est un parcours, elle est derrière la fenêtre, il y a de la buée sur la fenêtre de la voiture, et elle va jusqu'à ce portail de camp de concentration, le camp de Strohoff en Alsace, et la vidéo c'est Sightseeing, et on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là, c'est vrai que moi j'ai vu basculer l'œuvre de Tania Mourou vers une affectivité plus grande de ses formes, ce qu'on voit dans l'exposition à la galerie, c'est-à-dire qu'effectivement on a ce tableau de forme qui arrive et qui est du chaos à l'art. Puis ces bunkers, enfin ces piles, ces masses de béton qui ont servi à la bataille de Normandie pour le débarquement, c'est Churchill qui souhaitait pour évidemment le débarquement. Et puis ensuite on a cette vidéo de baleines et de baleineaux, cette espèce de chorégraphie assez sombre, travailler sur les contrastes de l'eau, etc. Et puis ensuite ces chants qui peuvent à la fois me faire penser moi à la photographie aérienne qui a été mise en œuvre, je dirais, à la guerre de 14-18, qui ont changé la figuration, qui a modifié quelque chose et qui a introduit de l'abstraction dans la peinture. Et donc, en fait, ce parcours qui a... Voilà, moi, j'aime beaucoup Tania Mourou pour, je dirais, son implication, une femme qui est là, et c'est pas mal qu'il y ait une femme, quoi, voilà, déjà. Et je trouve qu'en fait, il y a juste cette manière de dire... Vous pouvez pas lire, parce que ces lettres de forme, on a du mal à les lire. Il y a ces... ces ces photos panoramiques qui sont un morceau de l'histoire de la guerre, et c'est déjà de la guerre encore. Et puis ces baleines dont on sait que, bon, voilà. D'ailleurs... Non, mais on sait comment, voilà. La baleine représente aussi une sorte de notre propre humanité. Il n'y a plus de baleines, il n'y a plus d'hommes. Enfin, bon, il y a quelque chose dans l'écosystème. Bon. Et donc, vous m'avez coupé. Ce film s'appelle Infinité Zoom. Et la vidéo dont vous parliez, Frédéric, avec la destruction des livres, s'appelle Nauseam.
Ad Nauseam.
On voit bien le rapport entre tout ce qui est simple, je peux pas, vous savez. Et donc j'aime assez ce renversement qu'elle fait avec les titres, d'autant que ce film des vidéos, je crois que cette vidéo des machines vient après le film des baleines. Donc c'est pas des œuvres récentes qu'on a, mais ça veut dire qu'il y a un parcours souhaité par Tania Mouraud qui est partir de la guerre, partir de c'est illisible, en même temps de nous convier à du mouvement à travers un monde qui n'est pas le nôtre non plus, mais en même temps ça en fait partie. Et puis ces chants qui sont effectivement encore une sorte de lecture, je dirais un peu responsabilité d'écologie, on va donner à voir encore le monde qui se détruit. Alors moi je ne sais pas si ça fait bouger les gens que de nous montrer ça. Par contre effectivement il y a une volonté de réintroduire de l'abstraction dans quelque chose qui en avait peu, et donc elle est dans un rapport là entre de l'organique et de l'abstraction qui est en fait une sorte de composition de tout ce qu'on avait pu voir à la rétrospective à partir du moment où justement elle arrive avec plus d'intention et d'intensité à faire rentrer de l'émotion dans ses œuvres, même si moi je préfère toute la partie antérieure.
Anaëlle Pijard.
Oui, pour revenir à cette illisibilité qui est effectivement très importante dans son travail et tout son travail sur ses recherches sur le langage et sur ses mots qu'elle enfouit, puisqu'elle fait des tableaux qui sont tour à tour montrés dans l'espace urbain ou dans la galerie, là, dans des petits formats. On voit ces mots qui sont donc From Chaos to Art, par exemple, le titre de l'exposition, c'est le cas, qui sont perdus dans des compositions graphiques et qu'on ne peut pas lire. Je trouve que ce travail-là, quand on le voit, par exemple, sur le mur du Macval au moment de l'exposition dont Frédéric parlait, il y avait des longues lignes noires et blanches sur toute la façade du musée qui ressemblaient à des codes-barres, comme ça, porteurs d'un message, mais extrêmement difficiles à lire, qui disaient, quand on pouvait les lire, « Ceux qui ne peuvent se rappeler le passé sont condamnés à le répéter ». Alors là, je trouve ça très beau parce qu'on s'arrête. C'est une manière d'essayer de ralentir le temps, de ralentir les passants. Et il y a une mission, dans ce cas-là, de l'art public qui me paraît couronnée de succès. Je trouve que dans une galerie, dans des tout petits formats, il y a par exemple au premier étage de la galerie la série « Dreams », où on voit le mot rêve dans différentes langues, dans toutes sortes de caractères comme ça, et avec cette forme d'illisibilité, mais dans des tout petits formats. Évidemment, ça marche moins bien, ça a moins de force que quand on voit ça dans la rue.
Corinne Rondeau, là-dessus ?
Là-dessus ? Non.
Frédéric Bonnet.
Non, pour revenir sur cette phrase qui était en façade du Macval, moi justement elle me renvoie au film avec les baleines, parce que ce film-là il est quand même très curieux, parce que autant le film du pilon il est datable grosso modo, le film des baleines il l'est pas, il est noir et blanc. Il y a le son, comme elle le fait toujours, qui est très très présent, parce qu'elle désynchronise l'image et le son, elle l'amplifie. Donc on a une sorte de grondement qui environne l'espace. Et puis on a cette image en soi assez curieuse, parce que c'est pas un documentaire animalier, évidemment. Donc c'est un film qui pourrait être ancien, qui n'est pas daté et qui renvoie à une dimension historique. Et c'est là aussi où j'aime toujours bien en fait cette espèce d'ambiguïté, voire de flottement contrôlé, voulu dans le travail de Tania Mouraud, qui vous déplace tranquillement, subrepticement, d'une temporalité à une autre, d'un contexte à une autre, sans jamais, comme je le disais tout à l'heure, être dans la violence pure, mais en vous emmenant quand même assez loin.
Oui, elle nous envoie loin avec des images quand même, moi, qui me donnent beaucoup de... Je parlais de Clément Cogétor tout à l'heure pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'aspérité. Les images, vous le disiez tout à l'heure, de Tania Mouraud semblent sans aspérité, et pourtant, je trouve qu'elle regorge de récits, enfin de, et elle nous invite à entrer véritablement dedans, là où Cogitor nous montre quelque chose. Je trouve qu'on est beaucoup plus actif devant les œuvres là, ici présentées de Tania Moreau. Anaëlle Pigeat.
C'est vrai qu'il y a un rapport à l'intuition, je ne me souviens pas sur Clément Cogitor, mais un rapport à l'intuition très fort chez Tania Moreau. Mmh. Et j'en veux pour
preuve. On sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui. Et j'en veux pour preuve une dernière œuvre qui est au fond de l'exposition, où on voit trois petites formes noires qui dépassent en relief du mur et qui sont les contreformes des lettres art. Et en fait, c'est un appel à une lecture intuitive, c'est-à-dire qu'on voit l'intérieur du A, l'intérieur du R et l'intérieur du T. Et cette pièce-là me semble assez signifiante au regard de l'ensemble de son travail.
Corinne Rondeau.
Non, mais c'est pour rappeler aussi l'importance du temps. C'est-à-dire de l'arrêt chez Tania Moreau. Et quel effet des chambres de méditation à une époque, et qu'elle nous demande de regarder des signes qui sont en fait des mots parce que ce sont des contreformes. C'est une manière de dire, puisque c'était un texte, un titre d'œuvre, Percept as a Concept, ou Is Concept, je crois, la perception, c'est. Voilà. L'enjeu de l'expérience perceptive est extrêmement fort. Et c'est vrai qu'elle maintient cette dimension de perception, de sensibilité, de sensation, on va dire, de recherche de la sensation. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est quelqu'un qui, je dirais, dont le travail est très existentiel. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, quand vous mettez des affiches, c'est ni, c'est-à-dire dire non. C'est pas simple de dire non, mais il faut savoir dire non. Donc elle le fait par des affiches, bien sûr, bon, dans les années 70. Mais en même temps, je crois qu'il y a cette idée qu'elle a, vous savez, pour les chambres de méditatives, elle disait je construis un monde où je pourrais mourir en paix. Et je pense qu'en fait, ça, elle ne l'a pas quitté. Et ce qu'elle veut nous donner, comme le dit Frédéric, c'est pas de la violence brute, parce qu'effectivement, ça sert à rien. Mais je pense aussi qu'il faut savoir la manifester. Pour moi, elle se manifeste dans la durée de l'exposition et pas dans les pièces en soi. Mais il faut toujours essayer de mourir en paix. C'est pas simple aujourd'hui.
Essayez de faire Sacha Braguin, non, Frédéric Bonnet. Vous ne rajoutez rien parce que vous voyez que la pendule tourne et qu'il nous reste un gros morceau. Nous parlions de From Chaos to Art, l'exposition de Tania Moreau. Elle a décidément toujours intéressante galerie Rabouin-Moussion.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet, ou la troisième personne, en l'occurrence, de cette dispute art plastique en direct du Grand Palais pour l'ouverture de la FIAC. Là, c'est une exposition en galerie, une en institution. C'est d'Harmonie Corinne qu'il s'agit. Harmonie Corinne deux fois à la Galerie du Jour, Agnès B, mais aussi au Centre Pompidou. On voulait sonoriser tout le Grand Palais avec cette musique de Deluxe Folk Implosion. Bon, ça n'a pas pris tout à fait le relais, mais le coin de France Culture au Grand Palais a été bien sonorisé. Rétrospective des films et exposition au Centre Pompidou, une exposition d'œuvres récentes à la Galerie du Jour Agnès B, Armory Corinne, donc très présent cet automne à Paris. Par quoi est-ce qu'on commence, Corinne Rondeau ?
Écoutez, moi je dirais que si je n'avais pas vu Pompidou, je pense que je n'aurais pas été contente d'avoir vu ce que j'ai vu à la galerie Agnès B.
Alors il faut commencer par quoi du coup ?
Eh bien peut-être...
En tout cas dans notre discussion...
Non, en même temps chronologiquement, ça
oui,
commence
chez logique.
Agnès B. Bon, alors commençons par la chronologie.
Allez, Agnès B,
bon,
galerie
alors,
du jour,
la
pas
galerie
contente.
Du jour. Non, pas content, c'est-à-dire que je connais le réalisateur. Je ne m'attendais pas, en fait, à découvrir un plasticien, déjà. Bon, alors, le rapport à Agnès B., je le comprends, sur le rapport à l'adolescence, le rapport à ce rapport défoncé, je dirais, à l'art, c'est-à-dire, faisons en sorte que les choses aillent de travers, et puisons, finalement, dans des choses qui sont du déchet ou des choses pas normales. Donc, quand on est, effectivement, chez Agnès B., et qu'on voit Maclay, Culkin qui avait joué dans...
Maclay Culkin.
Ouais,
Maman, j'ai raté l'avion.
Bon, on se dit...
J'ai raté l'avion.
Non, il n'y a pas encore.
Oui, ça c'est le deuxième.
Vérifions. Mais oui, mais peu importe, c'est toujours le même, de toute façon. Et qu'on le voit chez Amaury Nicori, il y a une chose dans la galerie, à l'exposition, il y a une chose qui est très, très drôle, parce qu'il y a une installation de photographie avec ce jeune acteur qui est maintenant. Il a une quarantaine d'années et il chante, quoi, je crois. Et c'est un dispositif en croix, un montage en croix, des photographies de portraits qui sont en croix, mais en croix inversée. Et donc, il y avait deux spectatrices dans la galerie. Elle dit, ah, tu as vu, c'est le jeune garçon qui... Oh, tu crois qu'il est mort ? Et là, d'un coup, il y a eu la dimension funéraire, mortifère de l'installation qui a ressurgi. Bon, bah, évidemment que non. Mais enfin, l'effet, évidemment, chez Corinne, c'est un petit peu les choses lourdasses. Mais ce qui m'intéressait, c'est le rapport un petit peu de travailler comme... Surtout, assez vite, produire beaucoup... Du grand format, du petit format, de la sérigraphie, enfin de la photocopie, écrire des textes ou des poèmes sur des lettres d'hôtel et travailler en série, reprendre des motifs, les décaler et des figures qui reviennent, qu'on retrouvera aussi à Pompidou, c'est-à-dire des fantômes, les dimensions fantomatiques sont vraiment le début, je dirais, du travail plastique chez Harmony Corinne. Et puis par ailleurs, effectivement, les ghosts, quoi, les
fantômes.
Les fantômes, oui. Mais non, parce qu'il y a Red Ghost, je crois, qu'il y a une série comme ça. Donc j'étais un peu en retrait en me disant, je trouve ça un peu, il y va un peu à la louche, quoi. Bon, c'est normal. Mais il y avait une très belle pièce que j'ai beaucoup aimée, qui est une reproduction d'une même photographie dans le même. Après, je parle plus. Une reproduction et ensuite du latex qu'il a jeté du latex qui blanchit. Enfin bon, ça peut faire penser à d'autres choses. Et j'ai trouvé qu'il y avait une vraie puissance perceptive de ce travail. Et là, je me suis dit, oh, bon, il y en a une qui est bonne. Et puis après, je suis allée à Pompidou.
Alors, ça, on aura la suite, mais c'est Frédéric Bonnet qui voulait prendre peut-être la parole maintenant. Armand et Corinne, Galerie du Jour, pour commencer peut-être de façon synthétique, vu le temps qui file.
Bah, plutôt le centre Pompidou, en fait. Parce
allez,
que, effectivement,
bah on y va tout de suite.
Mais oui,
vous avez raison.
Allons-y, parce que c'est un petit peu un échantillon de ce qui est au centre Pompidou, qu'on retrouve à la galerie du Jour, et que... Pour le coup, si on veut véritablement comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est à la fois que la pensée, l'art et le monde d'Harmony Corinne, c'est vraiment
c'est
au centre Pompidou
beaucoup,
qu'il faut aller dans ces espaces très 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 ingrats mais du forum, mais où on a une véritable présentation de ce que c'est que sa peinture. Et ça, c'est pas si fréquemment qu'on voit des tableaux d'Harmony Corinne. Moi, j'en avais vu très très peu, et je dois dire que j'ai été très positivement
surpris,
oui, parce que à la différence, par exemple, d'un David Lynch, dont je n'ai jamais aimé la peinture, que j'ai toujours trouvé outrancière dans une manière de surjouer et de surinterpréter les états d'âme de ses propres films. Il y a chez Harmony Corinne, je trouve, une véritable expression picturale qui tient en elle-même, mais qui évidemment ne sort pas de nulle part et qui évidemment est parfaitement corrélée à l'univers de ses films, dans lesquels l'exposition intelligemment remet quelques
extraits
de ses films principaux, notamment Gumo, je l'ai vu il y a 20 ans quand il est sorti, je ne l'ai pas revu depuis. Je l'avais vu en salle en 97.
C'était un choc, absolument.
Ouais. Je me souviens d'un choc. Et déjà dans Gumo, donc il y a 20 ans, il y avait absolument tout ce qui fait l'univers d'Harmony Corinne, un saut dans les dérèglements de l'Amérique contemporaine, un regard d'une crudité extrême sur sa capacité d'exclusion, sur la misère sociale et la dépression chronique, sur l'enfermement dans un quotidien sordide et sur, au final, une manière d'aller regarder des corps qui ne sont plus que des ectoplasmes, parce qu'on se demande face à une telle violence si c'est véritablement des corps qu'on a à l'écran. Et il se trouve que c'est là où on rebascule sur sa peinture. Sa peinture, elle est essentiellement faite d'ectoplasmes et en plus de ça, dans une manière, moi je trouve sa peinture... même très bien faite.
Bon, Anaëlle Pigeat, alors, votre regard avant de revenir vers vos camarades sur Harmony Corinne.
Je trouve que c'est une exposition pour fans, l'exposition du Centre Pompidou. avec toutes les limites que ça peut comporter, parce que c'est une exposition qui est assez sèche. On apprend assez peu. On sait qu'il fait des fanzines, mais on en sait assez peu. On a le sentiment de toucher aux côtés de, enfin, une culture américaine vernaculaire. C'est un des mots à la mode dans le domaine de l'art contemporain, mais là, c'est quand même le cas. En tout cas, une culture populaire américaine. C'est une exposition pour fans, mais aussi avec tout l'avantage que ça peut avoir, c'est-à-dire qu'on rentre, parce que vous parliez des tableaux, Frédéric, mais il y a aussi tout un tas de documents qui viennent de ces archives, de notes, de dessins, de cahiers d'écoliers, de listes de mots, de listes de rumeurs, de listes de CV écrits d'une manière un peu fantaisiste. Et je trouve que par tous ces documents-là qui sont montrés de manière un peu... Moi, j'ai trouvé ça parfois un peu rebutant. Ils sont un peu... C'est des documents très vivants qui sont un peu comme épinglés comme des papillons dans des boîtes, dans ces vitrines à plat. Mais je trouve que ça traduit quand même très bien tout un aspect de son travail qui est lié à la question du masque, à la question de la superposition des couches d'images qu'on retrouve dans les différentes textures des films et dans les collages qu'il y a dans ses travaux sur papier, mais aussi dans les travaux sur toile, puisqu'il y a des images qui sont sérigraphiées puis rebadigeonnées de peinture. Il y a tout le travail de photographie. Il projette des images sur le mur, il les refotographie puis les refotocopie. Et en fait, tout ce rapport au masque et au travestissement touche, j'ai l'impression, à une culture étonnamment liée au carnaval et à quelque chose qui est assez bizarrement 19e. Si, je vous vois hausser les sourcils, enfin lever le sourcil un peu étonné, oui. Corinne.
Harmonie, appelez-moi Harmonie.
L'autre. Mais il y a quelque chose qui est... On voit par exemple des images de Footite qui rappellent Footite et Chocolat. La commissaire parle aussi de blackface, de ce travestissement, des mimes comme ça. Et tout ce travail-là, qui a trait au carnaval. Le carnaval, c'est le moment où tout est permis. Il y a ça aussi dans Spring Breakers, le moment du passage du rite initiatique, en fait, où tout se retourne et où tout était autorisé. Je trouve que l'exposition traduit ça de manière intéressante et montre aussi le côté un peu inégal de ce travail, dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a de plus faible. Je trouve que parfois les tableaux se ressemblent tous un peu les uns les autres, mais qu'il y en a certains.
Alors,
qui
on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, on va parler tous, pas en même temps, mais à la suite. Mais juste pour dire quand même. Il y a quand même une rétrospective intégrale aussi des films d'Harmonie Corinne au Centre Pompidou. Donc, c'est quand même l'occasion de revoir Spring Breakers sur grand écran. C'est quand même toujours un immense bonheur. Et filmographie inégale, hein, d'ailleurs, aussi pour Harmonie Corinne. Il y a des films qui m'ont vraiment peu intéressé et d'autres qui m'ont passionné. Parce qu'avant le choc de Gaumont, il y avait aussi Kids de Larry Clark, dont il était le scénariste, le très jeune scénariste, Harmonie Corinne, plutôt, plus exactement. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur le côté exposition pour fans. J'imagine que si on va voir l'exposition Harmonie Corinne au Centre Pompidou, c'est qu'on le connaît déjà, donc la question se pose moyennement. Mais je pense que ça raconte quelque chose d'une certaine marge des États-Unis contemporains qui peuvent parler, il me semble, hein, quand même à des gens qui n'ont jamais entendu parler d'Harmonie Corinne. Annaëlle ?
Dans le rapport au film, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'extraits de films. Si on n'a pas vu les films et qu'on arrive dans cette exposition, franchement, c'est dur.
Frédéric Bonnet.
Oui, mais alors justement, il y a peu d'extraits de films, mais ils sont véritablement très, très bien choisis.
Pour une fois.
Et absolument.
C'est bien de le dire.
Et c'est là où je trouve que la peinture d'Harmonie Corinne prend véritablement tout son sens. C'est quand on la regarde en ayant revu justement quelques extraits des films. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit que c'est un cinéaste qui systématiquement... n'est pas dans le documentaire de cette réalité trash, mais est dans une sorte d'ailleurs, parce qu'il impose toujours, il y a toujours un filtre qui vient se poser entre l'œil et le réel. Il y a des images qui sont bricolées, il y a du bougé, c'est surexposé, et il y a souvent une pixelisation, il y a souvent des effets d'image vidéo. Donc il y a véritablement un filtre, parce qu'on est dans cette Amérique déglinguée qui probablement ne voit plus véritablement le réel tel qu'il est. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde sa peinture ? On voit que c'est une peinture qui est construite par strates et par couches. Et par effacement et par adjonction. Et donc, ce sont des ajouts de filtres. Il y a aussi, et ça, cela je ne les connaissais pas du tout, j'ai été assez stupéfait par quelques tableaux qui sont composés par des collages d'une même image répétée sur toute la surface, et là-dessus il est venu barbouiller de la peinture latex, et donc on est dans un vocabulaire abstrait avec une forme qui émerge très subrepticement. Et moi, je trouve que ce travail de peinture par adjonction successive et par soustraction et par couche et par filtre est assez remarquable.
Non, mais bon, une mini-réponse d'Annaëlle Pigeat avant qu'on réentende Corinne Rondeau.
C'est vrai que le fait de voir ces travaux plastiques, je trouve, attire l'œil dans les films sur le fait qu'il est un cinéaste... plasticien très fortement. On parlait de Cogitor tout à l'heure, c'est peut-être le rapport inverse. Et il y a, dans une masterclass qu'il a donnée au Centre Pompidou qui était très intéressante, Philippe Ezzouri a attiré l'attention sur le rapport au cirque dans son travail et sur la succession de scènes comme des numéros de cirque un peu éloignés d'une narration vraiment claire. Et je trouve que la mise en rapport de cette dimension un peu circassienne et de ce côté très plastique et très éclairante.
Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui réussisse le mieux, le circassien dans les films. Je
trouve au
que
sens la des
force,
numéros, au sens
non, mais
des
la force de Spring Breakers, justement, c'est que c'était un continuum et que c'est justement tout le génie de ce film, à mon sens. Corinne Rondeau,
non, réagir sur les. Non, je trouve que vraiment l'exposition à Pompidou, elle est très éclairante. Pour moi qui connaissais la filmographie, j'attendais vraiment que ce soit un plasticien qui a vraiment une vraie pratique plastique que je n'avais pas vue à l'exposition de la galerie Agnès B. Ce qu'a dit Frédéric est tout à fait juste sur la question des filtres, des strates, la manière dont il travaille. Parce que quand on n'est pas très attentif, on se dit il y va à la louche, quoi, vraiment. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Il y a vraiment une conscience. Et ce qu'il y a de bien dans l'exposition, c'est d'abord l'idée de reproduire une sorte de piste de skate qui n'ont pas pu faire. Non, mais ça, je trouve bien parce que c'est un mec qui part avec du mouvement. Et ah oui. Harmony Korine, il travaille à faire émerger de la dégradation. Alors, quand on en a, même sous les vitrines, des petits bouts, c'est fait avec des petits bouts. Et effectivement, contrairement à Cogitore, le mec, il met sa caméra là où il est, c'est-à-dire là où il y a des jeunes, des vieux, des minorités. Alors, moi, je n'ai pas du tout d'aspect communautaire, mais je trouve que cette manière de faire remonter à la surface le fait de travailler avec du déchet ou avec du peu ou avec des masses et des strates, il y a quelque chose de vraiment d'une, moi je trouve d'une grande force sur certaines œuvres. Moi j'ai été assez étonnée, et même ces autoportraits qui sont en fait des formes fantomatiques, je veux dire, quand je l'ai vu avec cette zone de skate, enfin ce rappel, je me suis dit, mais j'ai vu les autoportraits, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout des fantômes, c'est des gens qui filent à toute berzingue, et dans la vitesse, ils sont complètement dissous, tordus. Et là, d'un coup, je voyais le cinéma de Harmony Korine. Et donc, je trouve qu'en fait, ces trucs qui apparaissent fantomatiques sont aussi autre chose. Ils sont aussi du mouvement. Voilà. Et je trouve qu'en fait, cette exposition à Pompidou m'a... Bon, il faut pas oublier que Agnès B. est passé à Gagosian, hein, aussi.
C'était le petit mot de la fin de Corinne, mais Frédéric Bonnet encore sur Harmony Korine.
Oui, non, juste un mot pour terminer, c'est qu'on parlait tout à l'heure des aspérités justement, et du manque d'aspérité. Justement, chez Harmony Korine, rien n'est jamais lisse.
Ah non,
et
ça,
rien n'est jamais
je trouve
lisse
pas que
parce
les vitrines soient dévitalisées. Je suis pas du tout d'accord non plus avec vous, Naïd Pigeat. C'est pas parce que c'est sous vitrine que c'est mort. Pas chez lui.
Non, moi, les vitrines, j'ai trouvé intéressantes aussi. Parce qu'elles posent justement tout son univers et qu'elles posent toute la documentation de son univers.
Bon, ben voilà, beaucoup de choses à dire encore sur Harmony Korine. On s'arrête là. L'exposition au Centre Pompidou, elle dure jusqu'au 5 novembre. Et à la galerie Agnès B, pour compléter la visite du Centre Pompidou. Quelques jours encore seulement, jusqu'au 28 octobre. Je ne sais même plus quel jour on est. Et avant de conclure cette émission en direct de la FIAC au Grand Palais, le jeu de la dispute, et on va commencer par un rappel du jeu, alors non pas d'hier soir, mais de lundi soir, parce qu'il n'y avait pas de dispute hier. Cette fois, c'est Camille Ferré qui passe par là et qui vient quelques jours avec nous, qui va nous rappeler la question de lundi soir, c'était...
La question était, quel réalisateur fut condamné à verser 180 000 euros à MK2 pour manquement à ses obligations?
Et la réponse était...
Et la réponse était Abdelatif Kechiche.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour la très belle exposition Être moderne, le MoMA à Paris. On en a beaucoup discuté la semaine dernière. C'est jusqu'au 5 mars à la Fondation Louis Vuitton. Quelle est la question, Camille?
La question est, quel artiste a fait pleurer certains visiteurs du MoMA lors d'une performance en 2010?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à l'adresse mail suivante auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter cette émission et bien sûr vous allez le faire, vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant, à moins que vous n'attendiez le direct pour commenter sur le compte Twitter Dispute FC. Demain à 19h, une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Raphaël Léris, Grégoire Leménager et Jean-Christophe Brianchon. Notre sommaire, romans et nouvelles de Philip Roth dans la bibliothèque de la Pléiade, L'art de perdre d'Alice Zéniter chez Flammarion et Trois jours chez ma tante d'Yves Ravet aux éditions de Minuit.